Bonjour à tous, je suis Mélissa et on se retrouve pour un nouvel épisode des Jeunes Time sur Bac FM, toujours accompagnée de Charline.
Et bonjour.
Aujourd'hui, nous allons discuter sur la place que la Corée du Sud a pris au fil du temps, notamment avec l'ampleur des dramas coréens.
Alors oui, en premier, on va présenter vite fait les différents types qu'il existe avec des exemples que l'on a regardés. Puis tu nous expliqueras comment les dramas coréens sont passés d'une production locale, c'est-à-dire dans leur pays d'origine, à un phénomène mondial.
C'est exactement ça, et on terminera sur leur volonté de refléter la vie en société par la transmission de valeurs ou de comportements spécifiques afin d'idéaliser et camoufler une triste réalité. Avant que tu nous proposes un fait d'actualité sur ce thème, j'aimerais préciser que la plupart du temps, on va utiliser le terme K-drama. C'est le mot utilisé pour parler des dramas coréens. En gros, on prend la lettre K de South Korea, qui en anglais signifie Corée du Sud, et après on ajoute drama.
De toute façon, c'est la même chose pour les dramas japonais ou chinois. On prend toujours la première lettre du pays et on rajoute drama derrière. Donc bref, moi aujourd'hui, au lieu de faire une actualité comme je le fais d'habitude sur le pays en question, je vais plutôt me concentrer sur la sortie d'un drama, vu que c'est le thème d'aujourd'hui. Donc un nouveau drama se fait connaître qui en ce moment engendre un certain intérêt pour les fans de drama, qui est plus que ravi de ce nouveau thriller. Il se nomme « Quand le téléphone sonne ». Le premier épisode est sorti le 22 novembre et cela n'est pas passé inaperçu car dès sa sortie, la série a récolté un peu plus de 3 millions de visionnages, ce qui l'a propulsé dans le top 5 des séries les plus vues dans le monde. Après toutes ces informations, je pense que vous voulez le résumé de cette intrigue qui a suscité la curiosité des gens. Donc pour faire bref, l'histoire est centrée sur un couple, pas tout à fait comme les autres. Donc je vais un peu écorcher les noms ici parce que voilà. Baek Se-hoon, héritier d'une éminente famille politique, est le porte-parole charismatique et beau gosse du président de la République de Corée. Depuis 3 ans, il est marié avec Hong Ji-joo, une femme atteinte de mutisme, ce qui signifie qu'elle peut s'exprimer qu'en langue des signes, donc elle ne peut pas parler. Personne ne connaît l'identité de la femme de Se-hoon, et pour cause, il s'agit en fait d'un mariage arrangé, et personne ne sait que cela fait 3 ans qu'ils vivent sans jamais s'être parlé. Un soir, un appel téléphonique va bouleverser le quotidien de Se-hoon et Ijo. Un mystérieux kidnappeur menace de dévoiler tous leurs secrets. Alors moi-même, je l'ai pas commencé, j'ai pas commencé à le regarder, mais en tout cas, l'intrigue, il est plutôt pas mal. Je pense que ce drama a tout le potentiel possible pour pouvoir se placer dans le top de visionnage. Nous pouvons le dire grâce aux nombreux retours des internautes sur celui-ci. Car quand le téléphone sonne, semble avoir déjà trouvé ses fans. Sur les sites spécialisés My Drama List, la série obtient déjà la note de 8,7 sur 10 avec plus de 2000 votes. Sur IMDB, pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de données qui se spécifie dans les films, les séries et les jeux vidéo. Le K-drama s'en sort aussi bien avec 8,5 sur 10. Les internautes saluent notamment l'inventivité de l'intrigue, la prestation des acteurs ainsi que les retournements de situation, nombreux dans les 2 premiers épisodes.
Ok, merci. Du coup, comme là, tu as parlé
Quand le téléphone sonne.
Quand le téléphone sonne.
Voilà.
Je pense qu'il y aura eu plus que 2 épisodes qui seront sortis.
Ah oui, non, oui, oui. Là,
ouais, je pense que là, ce sera terminé, mais...
Non, pas encore, pas encore, mais...
Mais allez voir, franchement, je pense qu'il est pas mal. Et bien, du coup, merci. Donc, alors, les différents genres de K-drama restent assez classiques. On a de la romance, mais il faut l'avouer, il y en a qui sont plus mignons comme True Beauty et qui sont assez clichés.
Ah, et aussi, pardon, je t'interromps, il est d'issue Webtoon.
Bah, explique peut-être ce que c'est.
Webtoon, c'est une plateforme où c'est plus des dessins, enfin, c'est des histoires, mais expliquées avec des dessins. Voilà.
Ok. Donc, je disais qu'on a de la romance, mais il faut l'avouer qu'il y en a qui sont plus mignons comme True Beauty et qui sont assez clichés avec le lycée, une rencontre inattendue, etc. Mais à l'inverse, il y a aussi des K-dramas avec un amour plutôt mature. Je pense notamment à She Will Never Know ou Flower of Evil qui reflètent les difficultés de la vie d'adulte à deux. On a qui sont basés sur la comédie comme Strong Woman Do Bong Son avec de la romance ou sans comme Welcome to Waikiki. On a les K-dramas qui sont tristes comme Daily Dose of Sunshine ou 25-21 qui d'ailleurs fait un lien avec le sport.
Ah, et tu m'avais dit que tu l'avais vu et que tu l'avais adoré celui-là.
Oui, vraiment. C'était l'un de mes premiers en fait K-dramas. Ah, okay. Donc je m'y attendais pas du tout à la fin, mais c'était incroyable.
Moi aussi, je vais continuer aussi avec les K-dramas basés sur la revanche, avec Peace and So ou Wikiro Class. On a aussi les K-dramas plutôt sur la survie, donc apocalyptique, avec Attaque de zombies comme Happiness ou Alive, qui est d'ailleurs un K-movie, donc c'est un film. On a les thrillers, Stranger from Hell ou Flower of Evil dit précédemment, je crois. On a ceux qui sont basés sur l'horreur comme Night in Paradise. Bon, celui-là, il m'a traumatisé quand je l'ai regardé. The Call, qui est aussi un K-movie. Ceux qui ont des plot twists, même si dans des dramas, ils ont beaucoup de plot twists, mais ceux-là sont vraiment basés sur ça, comme Vagabond ou Big Mouth. Ceux qui reposent sur de la fantasy, comme Abyss, Death Game, My Roommate is Gomio. Et enfin, ceux qui sont historiques, comme Moon Lovers ou Alchemy of Souls.
Les K-dramas n'ont pas toujours été sous les feux des projecteurs. Cependant, même s'ils n'ont pas été d'office un phénomène mondial, ils étaient déjà un succès local. Il faut savoir que les K-dramas remontent au début des années 1960, avec l'arrivée de la télévision en Corée du Sud. Les premières productions étaient principalement des adaptations de contes traditionnels et d'événements historiques. La qualité de production était moyenne, contrairement aux histoires qui touchaient profondément le public local.
Ok, mais du coup j'ai une question, vu que c'était pas du tout connu, pourquoi ça a pris une telle ampleur dans le monde occidental?
En fait, ce qui a surtout contribué à cette internationalisation des K-dramas, c'est à partir des années 2000 avec la vague Hallyu, qui littéralement se traduit par vague coréenne. Donc c'était un phénomène culturel qui a fait monter la Corée du Sud en popularité. C'est d'ailleurs ce qui a permis de faire connaître la K-pop, mais aussi leur haute qualité cosmétique, ainsi que de vulgariser la K-food, notamment à travers les K-dramas. Tout en suivant cette vague coréenne, les plateformes en ligne sont devenues une alternative pratique au cinéma classique, tel que Viki ou Voire Drama, je pense que t'en connais d'autres.
Oui, j'ai plus une plateforme chinoise, c'est Kii. Mais sinon, après, ouais. Après c'est plus un streaming.
Il y a même kiss.kh.com.
Ouais, après, c'est plus ça. Des streamings où il y a beaucoup de pubs, tu vois.
Les valeurs de production sont élevées, les intrigues sont encore plus complexes et le développement est approfondi pour les personnages. Du coup, c'est ce qui a établi de nouveaux standards dans l'industrie, influençant non seulement d'autres dramas asiatiques, mais aussi des productions occidentales. Ce sont des plateformes américaines qui ont commencé à investir comme Netflix. D'ailleurs, on sait que ce n'est pas un regret puisqu'ils continuent. Surtout depuis que Squid Game, sorti en 2021, est devenu top 1, ayant réalisé 111 millions de visionnages en à peine 27 jours, ce qui, reconnaissons-le, était une première.
Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant.
Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
Vous avez tué ces gens !
Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent.
Ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe.
Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as de t'en sortir.
Les jeux d'enfants ont des règles simples.
Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour.
C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça!
Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
Mais qu'est-ce qui attire les gens sur ces dramas, genre ?
Bah, comme on a pu le voir juste avant, les K-dramas ont intégré de plus en plus des histoires diversifiées, reflétant les normes et valeurs sociales en constante évolution. Cette transformation permet aux K-dramas de rester pertinents et attractifs pour un large public. Enfin, si ces séries trouvent leur public au-delà de la Corée, c'est en partie grâce à leur traitement frontal des problèmes de société, dont tu vas nous parler dès maintenant.
Bien sûr. Je vais vous introduire les contenus, ou plutôt les thématiques abordées dans les K-dramas. Évidemment, il y en a un paquet, mais on va vous présenter ceux qui sont les plus utilisés ou ceux qu'on a l'habitude de voir. En résumé, la Corée du Sud se distingue énormément des autres au niveau cinématographique par la présence de leur richesse narrative, leur qualité de production et leur capacité à capter leur public grâce aux prises des scènes tournées derrière des paysages à couper le souffle ou même à un environnement qui est très différent de la nôtre. Il y a aussi les jeux des acteurs qui est accrocheur et très différent de ce que l'on peut voir car par exemple un jeu d'acteur coréen va être différent de celui d'un américain. Et pour finir, ces dramas vont se caractériser par leurs problématiques culturelles qui nous sont un peu ou totalement étrangers. Donc nous avons avec Mélissa choisi les sujets à mener dans les K-dramas qui nous semblent les plus pertinents. Nous allons vous en présenter quatre. Les valeurs familiales et sociales, la hiérarchie et les inégalités sociales, les relations hommes et femmes et le sujet tabou et leur traitement. Alors moi je vais commencer par vous parler des valeurs familiales et sociales. En Corée du Sud, ces valeurs jouent un rôle central dans la vie quotidienne. Ces principes sont enracinés depuis des siècles et ceux-ci fonctionnent sur le respect, la hiérarchie, la solidarité et la communauté. Le respect est une valeur fondamentale. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à obéir à leurs parents et à honorer les membres les plus âgés de la famille. Ce respect peut être exprimé par des gestes comme l'inclinaison qu'on peut voir souvent dans les dramas de tête ou un langage très soutenu envers leurs aînés. Ce sujet va alors être placé au centre de ces dramas pour refléter l'importance de ces thèmes. Il est souvent amené d'une manière profonde et poignante pour valoriser la beauté et la complexité de la vie de famille, tout en explorant des thèmes universels comme l'amour, le sacrifice et le respect. Je vais donner un exemple plus précis pour mieux encadrer cette notion. Un personnage va être confronté à des dilemmes moraux ou émotionnels qui vont le pousser à prendre des décisions au nom de sa famille, quitte à renoncer à ses propres rêves ou à ses désirs personnels. Parfois, ce sacrifice prend la forme d'une renonciation, par exemple à une carrière, une obligation de se marier avec quelqu'un qu'il ne veut pas, ou même d'un engagement à résoudre des conflits familiaux douloureux. Ces sacrifices illustrent l'importance de l'harmonie familiale, souvent présentée comme un objectif suprême là-bas, tu vois.
Mais on est d'accord que le mariage arrangé en Corée du Sud, il n'y est plus.
C'est pas des mariages forcés, mais il existe encore des mariages arrangés. Hein.
Ah ouais, tu penses?
Ouais, des rendez-vous et tout. Oui, entre familles.
Ah oui, la famille, elle va inciter la fille, souvent d'ailleurs.
Bah même ouais. Enfin, ça dépend. Enfin, c'est.
En fait, c'est souvent que la fille doit se marier le plus vite et tout. Parce que sinon, elle est mal vue si à 30 ans, elle est encore célibataire et tout, machin.
Ah, après, ça dépend des familles, mais c'est plus les tchébols, tu vois.
Oui, oui, enfin, les grandes familles, mais ça, c'est encore. Voilà, oui, mais oui. Je pense même dans la haute société en général. Mmh. Hein. Et même pour pousser au respect et tout, là, récemment j'ai vu, genre, rien que pour servir de l'alcool.
Ah sais, oui!
Le
tourment de tête là?
Ouais, non mais oui, il faut se tourner, faut recevoir avec les deux mains, mettre une main sous son coude droit.
Oui.
Faut jamais se servir soi-même, toujours servir
oui,
l'autre.
Oui, après ça, ça commence à changer. C'est plus aussi strict.
Je pense quand même que c'est surtout que c'est un pays qui a subi une évolution vraiment très rapide au niveau technologique et tout, mais la société, elle n'a pas forcément suivi, quoi. Mmh. Tu vois, ça, c'est quand même resté dans les mentalités assez traditionnelles.
Oui, oui, c'est sûr.
Mais dans tous les cas, il y a forcément des aspects négatifs à cette idéalisation.
Oui, bien sûr. Certains dramas vont nous montrer les abus subis, du coup, à cause de ces valeurs. Comme on a dit, forcer les filles ou les garçons de se marier. Bien qu'elle soit louable sur quelques aspects, mais le sacrifice excessif au nom de la famille peut être destructeur pour la personne qui subit, tu vois. Dans de nombreuses séries, les personnages sont présentés comme vouloir tout sacrifier, leurs rêves, leur carrière, leur bonheur personnel, pour le bien-être de leur famille. Ce sacrifice aveugle, souvent glorifié, peut encourager une vision déformée de ce que cela signifie, prendre soin de ses proches. Au lieu de promouvoir l'équilibre et l'épanouissement individuel, cette idée pousse les personnages à s'oublier eux-mêmes au point de perdre leur identité ou leur dignité, tu vois. Un autre aspect problématique est le respect presque aveugle des aînés et de l'autorité familiale, bien que c'est aussi très important de respecter ses aînés, mais il y a dans certaines circonstances qui sont très abusées. Dans de nombreux dramas, les personnages sont contraints de se soumettre à des décisions familiales imposées, même lorsque ces décisions sont injustes ou vont à l'encontre de leurs désirs personnels. Cette hiérarchie stricte où l'opinion des parents et des grands-parents prévaut toujours peut créer un climat d'intimidation et de pression psychologique, particulièrement dans les cas de mariage arrangé, comme on l'a dit tout à l'heure, ou de carrière choisie sans prendre en compte les aspirations de leurs enfants et vouloir avant tout se faire bien voir dans la société pour avoir un métier dit louable, quitte à oublier le bonheur de leurs enfants. Elle renforce l'idée que l'indépendance ou la contestation de l'autorité familiale est une force d'ingratitude.
Il y avait un drama justement sur ça, mais je ne me rappelle plus le nom, ça m'énerve. récemment sortie. Mais en gros, la fille, elle revient en Corée du Sud, elle a quitté son travail.
The Next Door ?
Oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, elle est travaillée aux États-Unis. En fait, elle est travaillée aux États-Unis. Elle avait réussi tout et elle rentre chez elle comme ça et personne, enfin, ne sait la raison pour laquelle elle rentre. Ouais. Et en fait, on découvre nous en tant que spectateurs, c'est qu'elle a subi du harcèlement au travail et tout, que c'était
t'es en train de me spoiler,
abusif.
Là.
Bah excuse-moi, mais okay. Bon. Et du coup, en fait, elle a même rompu avec son mariage. Et là, je peux pas spoiler, mais franchement, je m'y attendais pas. Et pourquoi ? Mais bon, c'est triste. C'est un peu triste quand même. Mais c'est pareil. Et du coup, quand la mère, elle a su ça, c'était une honte, quoi, pour le village et tout. Vraiment. Bref. Et genre, même pas de. Elle se pose même pas la question de pourquoi sa fille a rompu les fiançailles.
Savoir si sa fille va bien, quoi. Surtout,
ouais, non, vraiment pas. Genre, elle s'en fout.
Ok, ouais.
Mais du coup, c'est assez problématique. Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la hiérarchie des inégalités sociales ?
Oui, pas de souci. Au départ, je vais énoncer toutes les dénonciations faites par les dramas sur ces inégalités et sur cette hiérarchie. Après, je vais amener un côté un peu plus positif pour redorer un peu leur image. Dans les K-dramas, la société coréenne est souvent représentée par une stratification où les individus sont définis par leur statut social. La hiérarchie est omniprésente, que ce soit dans les relations familiales, les relations de travail ou dans les écoles. Ce système hiérarchique impose des rôles stricts où l'individu doit respecter une autorité établie, qu'il s'agisse des parents, des aînés ou des figures d'autorité professionnelle. Cette hiérarchie génère des inégalités qui sont à la fois visibles et parfois invisibles.
Mais il y a un nom qui décrit ces inégalités.
Oui, comme je l'ai dit, je crois tout à l'heure, la plus grande figure emblématique de l'inégalité dans les K-dramas est celle du chaebol.
Ah oui, c'est ce que tu nous as parlé.
Oui, je l'ai dit, ouais. Ces grandes familles coréennes à la tête de l'économie. Alors, les chaebol contrôlent une part importante de l'économie du pays et leurs membres sont souvent représentés comme des personnages puissants et privilégiés par leur statut social, du coup. Et dans des séries comme The Heirs, je ne sais pas si tu l'as vu, ou Descendants of the Sun, je crois que celui-là tu l'as vu.
Ouais, ouais.
Les personnages issus de cette famille bénéficient d'une position sociale dominante grâce à leur richesse et leur influence. Cependant, cette domination engendre souvent des tensions avec les personnages d'origine plus modeste, mettant en lumière la fracture entre les différentes classes sociales. Le pouvoir économique des chaebol n'est pas seulement financier, il s'étend un petit peu plus dans la sphère politique aussi, et sociale. L'héritage familial et l'appartenance à ces grandes dynasties déterminent souvent le destin des personnages dans ces dramas.
Ok, donc je comprends, mais les personnes de classe moyenne ne peuvent pas s'en sortir grâce aux études ou par le travail personnel ?
Oui et non, mais tu vois, toutes les personnes venant de classe moyenne ou ouvrière ne peuvent pas se libérer de ces inégalités car le système éducatif coréen, comme illustré dans de nombreux K-dramas, est un autre terrain où les inégalités sociales se manifestent de manière marquée. Les personnages sont souvent plongés dans une compétition féroce où la réussite scolaire est perçue comme la seule voie pour gravir les échelons de la société.
Ça, va falloir. Je te laisse finir, mais je vais en parler aussi. Ouais.
Dans des dramas comme Sky Castle, l'accent est mis sur la pression que subissent les enfants issus de familles riches qui investissent d'énormes ressources pour garantir que leurs enfants intègrent les meilleures universités du pays et pour honorer leur famille. Cette compétition féroce engendre une mentalité de gagnant-perdant parce qu'il y a toujours un gagnant à cette compétition et le perdant, il se retrouve...
Il n'y a pas d'ascension sociale, il restera pauvre toute sa vie. Voilà, c'est ça.
Ces issues de milieux moins privilégiés sont souvent laissées pour compte, n'ayant pas accès aux mêmes ressources éducatives, tu vois, vu que la richesse n'est pas pareille, ils ne peuvent pas se payer les mêmes écoles.
Bah oui, et justement, ça fait le lien, j'ai vu récemment une journée typique d'un Coréen, enfin d'un lycéen qui est en Corée du Sud, du coup.
Oui, un reportage.
Ouais, et ben en fait, une journée typique, c'est de 8h à 16h30, ils ont les cours normales.
Tu dis, ça va.
C'est exactement ça. Et après, ils restent... Beaucoup, la plupart restent jusqu'à 18h tous les jours dans des études surveillées. Et ensuite, ils ont des cours privés, donc ça s'appelle des Habwon.
Qui sont super chers, je crois.
Et qui sont très chers, effectivement. Et c'est de 3h à 6h. Donc, en temps normal, ils devraient se terminer à 22h. Mais la plupart, on sait tous qu'ils terminent à minuit. Donc, ils sont à 4 à 6 heures de sommeil, en fait.
Quand t'as pas beaucoup de sommeil, tu peux pas bien apprendre.
Je pense qu'ils ont surtout pas le choix. Genre, je pense que nous, on se dit, ouais, tranquille et tout. Tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est pas du tout la même mentalité. T'as pas du tout la même pression et tout, même si tu as des parents stricts.
D'accord, on n'a pas les mêmes mentalités, mais le cerveau, c'est un cerveau. Quand t'as pas beaucoup de sommeil, que ce soit n'importe quel individu, tu peux pas bien réfléchir, tu vois.
façon, je vais dire la raison pour laquelle ils font tout ça, c'est clairement pour réussir leur vie, quoi. Ouais. Genre pour passer l'examen. Non, mais t'imagines, qui est tu équivalent
fais tout ça,
à nous.
Tu fais tout ça pour final, enfin avoir un échec à la fin, tu vois.
Bah pas forcément, tu peux réussir.
Non mais oui, oui je sais, mais tout le monde ne peut pas réussir. Enfin c'est logique. Il y a toujours un gagnant perdant.
Mais je crois que de plus en plus ça évolue quand même. Ouais, bah... Ils essayent de trouver une alternative, mais. Mais
c'est long,
quoi,
les...
De toute façon, je vais le dire aussi plus tard, les heures de travail, c'est pas non plus le plus fun, quoi. De toute façon, l'échec scolaire, bah, c'est inconcevable pour les Coréens, quoi.
Oui, vraiment, la pression de réussir dans ce système est telle que l'échec scolaire peut avoir des conséquences désastreuses, bah, notamment en termes de statut social et au niveau psychologique aussi pour l'enfant. Enfin, on n'y pense pas vraiment, mais enfin, c'est un impact énorme, tu vois, pour l'enfant. Ouais. Car cela peut engendrer de multiples suicides, qui est très connu en Corée. À cause de cette pression sociale, tout simplement, quoi. L'échec scolaire est relié à l'échec de ne pouvoir jamais atteindre un statut bien plus confortable dans ce pays, et donc de vivre dans la misère ou alors de faire honte à sa famille pour les personnes d'un statut plus élevé. Ces mots suffisent à prendre la décision d'en finir avec la vie.
Hein. Bah oui, et comme c'est à peu près connu que le pays possède le taux de suicide le plus élevé du monde, en 2020, plus de 20 personnes pour 100 000 habitants mettent fin à leur jour, selon les données de l'OMS et de l'OCDE.
C'est horrible, quoi. Enfin, et c'est pour ça que beaucoup de K-drama essayent de dénoncer ces faits, quoi. En mettant en scène, le plus souvent, tu vois, ils vont mettre en scène un enfant, un jeune adolescent, ils vont se mettre dans la peau d'un jeune adolescent. Ouais. Qui doit supporter toute cette pression sur ses épaules. Et que ce soit la pression de la société ou de sa propre famille, tu vois, pour devoir réussir. Donc on va vraiment voir comment on peut penser à un enfant qui doit supporter tout ça à son jeune âge, devoir toute cette pression, réussir, quoi. Ouais. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle.
Bah, vas-y.
Malgré de nombreux points négatifs sur ce sujet, il va quand même y exister quand même des informations qui redonnent le sourire et qui se voient exposées aussi dans les dramas pour donner une certaine bonne image aux Chaebol et surtout pour ne pas tous les diaboliser. Donc dans les K-dramas, les familles Chaebol vont être montrées comme des modèles de travailleurs acharnés qui consacrent leur vie pour leur travail. Les héritiers vont être désignés non seulement des responsables de maintenir et d'étendre l'empire économique familial, mais sont aussi porteurs d'une grande vision. Ces dynasties sont parfois présentées comme des symboles de réussite et de persévérance, où la richesse n'est pas simplement un privilège, mais un outil au service de la société. Par exemple, dans les séries The Hearth ou Boys Over Flower, qui sont des personnages issus de familles Chaebol, ils vont bénéficier d'une position sociale élevée et dans ces dramas, ils vont faire face à des dilemmes personnels qui vont les obliger à réfléchir sur leur rôle dans la société, que ce soit positive ou négative, et donc à utiliser leur pouvoir pour faire le bien autour d'eux et surtout de leur donner un côté plus humain.
Humaniste.
Et pour montrer que ce sont des humains avant tout, quoi. Et pour en revenir aux écoles, les K-dramas ont également montré le système éducatif sous un jour plus positif, bien que la pression exercée sur les étudiants soit immense. Cette compétition est parfois représentée comme un moteur d'ambition et de réussite. Les personnages qui réussissent à surmonter ces défis scolaires à travers le travail acharné, la persévérance et le soutien familial sont souvent porteurs de valeurs telles que la discipline, la résilience et la loyauté. Dans des séries comme dit précédemment, Sky Castle, même si la compétition est féroce et les attentes sont élevées, les personnages vont être montrés comme des battants, prêts à tout pour un avenir meilleur pour leur future descendance, tu vois. Et aussi montrer que l'éducation est un moyen essentiel pour atteindre ses rêves et contribuer positivement à la société.
Donc moi, je vais continuer avec la place centrale que l'on accorde à la romance dans les K-dramas. Alors oui, bon, il est vrai qu'il y en a beaucoup, mais comme dans toutes les séries. En revanche, l'approche est complètement différente et c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle les K-dramas ont un succès particulier auprès des filles. La chercheuse Min Joon Lee a remarqué que les protagonistes avaient souvent le rôle de l'homme idéal. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu retrouves le plus comme représentation idéalisée ?
Bah, dans les dramas, on va plus voir un homme beau, grand, qui est là pour redonner le sourire à la fille, enfin redonner une certaine motivation, enfin qui est là pour la protéger, quoi.
Ouais, en gros c'est ça. Enfin, la chercheuse, elle les décrit comme loyaux, beaux, dévoués. Moi, je rajouterais qu'ils sont drôles, romantiques, sérieux, bref, le gars parfait, quoi.
Mais pourquoi ils font ça, enfin, et comment aussi?
Bah, des universités ont montré que cette idéalisation a été mise en place en raison de la montée du pouvoir de consommation des femmes. La chercheuse explique que les spectatrices sont celles qui s'engagent le plus dans les activités de fans liées au drama. Les producteurs essayent donc de satisfaire leurs désirs en dépeignant une masculinité idéale qu'ils pensent que les femmes voudraient voir. J'imagine que tu as déjà vu des édits des protagonistes hommes des K-dramas, mais beaucoup moins de femmes. Ou rien qu'au fan meeting, c'est toujours des filles qui viennent. J'ai même l'impression que le casting des hommes est encore plus sélectif que celui des femmes. En fait, je pense que comme il y a beaucoup de femmes occidentales qui regardent des K-dramas, en plus en Corée du Sud, c'est pas tant que ça.
Oui, mais populaire. Beaucoup vont regarder aussi le physique de la femme.
Ouais.
Faut pas croire.
Non, mais ouais, ouais, c'est sûr. Mais du coup, en parlant des femmes.
Oui, et ben, leur oui place, vas-y, dis-moi, du coup, à propos des femmes, c'est quoi leur place dans les K-dramas, du coup, surtout?
Et ben, de plus en plus, il y a des femmes indépendantes et ambitieuses. Souvent, elles ont du répondant, elles savent ce qu'elles veulent et en général, elles ne cherchent pas quelqu'un. À l'inverse, ce qui est étrange, dans la vraie vie, les Coréennes ont plus tendance à être timides, à chercher l'amour. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai remarqué qu'elles ont un fort caractère au début du K-drama et après, elles ont plus tendance
oui,
à devenir
cliché. Oui, mais c'est pour ajouter ce petit côté mignon, douceur, tu vois. Ouais, la... bah, c'est la, oui. La période lune de miel, tu connais. Oui, c'est les débuts, tu sais, de la romance.
Oui, oui, mais dans tous les cas, il n'y a aucune dispute à chaque fois. Ça, tout est parfait, quoi.
Non, pas tout le temps.
Ouais, bah, enfin, après qu'ils oui, ont vécu les traumatismes, oui, oui. Quoi. Enfin, le schéma reste typique. Après, bah, après ensemble, c'est parfois le mariage,
oui, non, mais...
l'enfant.
Après, etc. Non, mais il faut quand même 10 épisodes pour qu'il y ait un contact physique. Après, je dis ça, je dirais...
Oui, bah, voilà. Et c'est sûr. Et par ailleurs, le fait qu'ils mettent autant de temps, ça veut montrer une certaine maturité, innocence. Tout comme dans les scènes à caractère sexuel qui sont littéralement inexistantes. Par rapport à des séries occidentales, on connaît. Hein. La chercheuse explique que, conjointement à la mise en scène de... ses qualités romantiques et esthétiques, l'absence de sexualité à l'écran peut sembler attractif auprès d'un public occidental, jeune et féminin, mais pas que, qui suffoque, je cite, dans un contexte local de masculinité virile et hypersexuelle. Ainsi, les protagonistes non sexuels semblent plus romantiques et moins menaçants. Et par là, les personnes qui regardent ça voient que ce n'est pas la sexualité qui crée l'intimité, mais un sentiment d'attention pour l'autre. Cependant, il y a des limites puisque les motivations ne sont pas forcément aussi bonnes. En gros, ce sont des régulations de diffusion strictes qui limitent les représentations de la sexualité.
Mais en fait, c'est tabou, non, la sexualité en Corée?
Ah oui, oui. Non, mais vraiment. Et bah, du coup, ça nous mène au sujet suivant. Les sujets ouais. Tabous de la société. Donc les K-dramas ont notamment diversifié leurs thèmes à travers des sujets tabous comme la pression sociale concernant la réussite scolaire, c'est ce qu'on a parlé, que ce soit les élèves, mais aussi les professeurs qui subissent cette pression scolaire.
Je crois que donc, t'as justement... un sujet sur une professeure...
Ouais, mais en fait, genre, ce qu'il faut dire, c'est que les professeurs, ils subissent aussi cette pression scolaire, c'est pour l'examen Sunung, donc qui est l'équivalent du bac en France. Et en gros, donc, comme on a dit, il n'y a pas d'ascension sociale si tu ne réussis pas. Et puis de toute façon, c'est fou le jour de cet examen. Tu as carrément la police qui se charge de t'emmener pour que tu passes tes épreuves écrites. Le seul jour où pendant la section d'écoute en anglais, les avions n'ont plus le droit de voler. Ou encore les horaires de travail des entreprises sont décalés. En fait, c'est la ville entière qui te soutient. Quoi.
C'est le moment le plus important.
Ouais, et du coup, ça dure de 8h40 à 17h. Ouais. Et ils sont préparés depuis le primaire, quoi, comme ce qu'on disait.
Ils sont formatés
avec 16
heures
par jour de travail. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, pour revenir à cette compétitivité, cette concurrence qui mène forcément à de l'harcèlement. Et en fait, il y a un article du Monde qui montre qu'une professeure du primaire déclare « J'avais repéré une élève qui harcelait les autres, proférait des insultes et disait des gros mots. Un jour, j'ai voulu la sanctionner. Ses parents n'ont pas apprécié. Ils m'ont accusé d'avoir tout inventé, ont menacé de porter plainte, ont cherché à monter d'autres parents contre moi et ont exigé que je m'excuse publiquement. J'ai eu peur, j'ai fini par céder. » Dès lors, elle s'est retrouvée étiquetée « mauvaise prof » et elle a dû consulter un psychiatre. Aujourd'hui affectée à un autre établissement, elle reste traumatisée par cette expérience. Et cela prouve qu'elle n'a eu ni le soutien de l'école, ni de ses collègues. Et pareil, il y a eu une professeure qui s'est suicidée à l'école primaire. Enfin, c'était une professeure d'école primaire qui a déclenché ce... Enfin, en 2023, elle s'est suicidée et ce qui a déclenché une manifestation de 50 000 enseignants se révoltant contre le harcèlement des parents trop autoritaires. Et donc, du coup, la jeune femme a été retrouvée dans le placard de sa classe par ses collègues et tous les événements ont mené à penser que c'était un suicide. Et justement, dans son journal intime, on peut lire qu'elle écrivait « Mon cœur est si serré, j'ai l'impression que je vais tomber, je ne sais même plus où je suis. » Et donc... une de ses proches a révélé qu'elle recevait régulièrement des appels, des messages houleux des parents après un incident en classe. Et 50 jours après, le courrier international révèle que deux autres professeurs se sont suicidés. Donc ça a vraiment bouleverser le pays. Une obsession de réussite qui mène à des atrocités, c'est ce que le thriller Sunwing de 2013 prévient. Et donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et ça montre justement cette concurrence affreuse, quoi.
Mais d'ailleurs, en revenant à la professeure qui a dû consulter une psychiatre, tu vois, ça a sûrement été une double peine, puisque là-bas aussi, la maladie mentale, c'est très tabou, tu vois.
Ouais, et les maladies mentales sont très mal perçues, effectivement, mais les K-dramas essayent justement de les normaliser, notamment avec un que je vais développer, It's Okay to Not Be Okay, qui parle du trouble de la personnalité, et elle est aussi antisociale, donc elle peut pas supporter vraiment beaucoup de
le monde.
Voilà. Et en fait, elle va rencontrer un aide-soignant qui est dans un hôpital psychiatrique et qui a un frère qui est autiste. Et donc, en fait, on voit justement comment ils vont se soutenir. Mm-hmm. Et franchement, c'est hyper enrichissant. Enfin, franchement, c'est un truc...
Moi, j'en ai un deuxième comme exemple. Il y a Daily Dose of Sunshine, qui lui aussi parle des santé mentale. Dans ce drama, ça va parler du burn-out au travail, vu que, tu sais, là-bas, ils ont beaucoup d'heures de travail. Et surtout que son travail, il est un petit peu spécial, c'est qu'elle travaille en psychiatrie, tu vois.
Ouais.
Et elle va faire face à des patients qui ont des maladies mentales. Et un jour, un de ses patients, avec qui elle a beaucoup d'interactions, va se suicider. Et donc, ça va la renfermer et elle va tomber en dépression, tu vois. Et okay. Elle va elle-même aussi, du coup, aller dans des services psychiatriques pour se soigner.
Ok. Et justement, est-ce que tu sais le nombre d'heures qu'ils ont de travail ?
Je sais que c'est énormément comparé à l'autre.
En fait, soit 40 heures de travail légal, mais il y a 12 heures d'heures supplémentaires. Et en plus, afin de relancer la productivité dans le pays, déclare l'ex-président maintenant. Les employés dans la recherche et développement passeraient sûrement à 69 heures de travail si c'est nécessaire pour en gros concurrencer les entreprises étrangères. Mais selon ses partisans, ce projet de réforme permettrait de redynamiser l'industrie des semi-conducteurs, qui est un secteur clé pour la Corée du Sud, puisque ça pèse pour environ 20% de son activité industrielle. Et puis d'autres vont dire que ce serait une source anxiogène en plus. Et enfin, comme dernier sujet tabou, il y a les critères de beauté qui façonnent la société avec des jugements physiques constants, comme ce qu'on a parlé justement de la sélectivité qui est faite dans les K-dramas.
Oui, le casting et tout.
Ouais, voilà, les castings.
Du coup, d'ailleurs, il y a un K-drama qui va parler spécialement de ça. Oh My Venus, qui va tendre à ouvrir sur une autre façon de percevoir la beauté, notamment sur les femmes un petit peu plus rondes que ce qu'on voit d'habitude dans les dramas.
Ouais.
Et du coup, ça va un petit peu, pas normaliser, puisqu'il y en a très peu de K-dramas qui parlent de ça, mais montrer que malgré les formes, une femme peut être très bien, être très belle, quoi.
Ouais, et puis que chacun a son corps, quoi, en fait.
Oui, voilà. Et du coup, nous entamons aussi la dernière partie de notre émission. On va développer un des dramas qu'on a aimé, tout simplement, et vous le faire découvrir. Donc pour ma part, ça va être Pisenso, que j'ai dit précédemment, qui est un drama de vengeance. Donc ça va parler d'un Coréen, tu vois, enfin tu l'as vu toi aussi,
oui.
D'un Coréen qui va se faire adopter, donc c'est Pisenso, il va s'appeler.
Ouais.
Il va se faire adopter à son jeune âge par des Italiens, et surtout des mafieux italiens. Et il va grandir, il va prendre de l'échelon et il va revenir en Corée pour prendre de l'argent qu'il avait caché dans un bâtiment.
Ouais.
Donc c'est de l'or, tu vois. Tu vois, l'or, il va pas pouvoir la prendre puisqu'il va faire face à différents dilemmes, aux habitants aussi qui vont contester, qui vont lui poser quelques problèmes. Et surtout...
Oui, parce qu'à un moment donné, ils voulaient démolir le bâtiment.
Le bâtiment, mais du coup, les habitants, ils étaient contre ça. Ouais. Et ils essayaient un peu de gagner un peu leur confiance, mais c'était un peu compliqué. Mais il va y avoir aussi un autre dilemme, c'est l'entreprise Babel, je crois. Oui, Babel,
ouais,
c'est ça.
Babel, ouais.
Qui va vouloir acheter l'immeuble. Mais il y a l'or et du coup il voulait pas la donner, quoi.
Et du coup il prend l'excuse de sauver l'immeuble.
Oui, c'est ça. Du coup il va y avoir un, c'est pas un plot twist, mais il va y avoir un moment où il va faire que il va devoir venger une personne qu'il apprécie.
Ah,
contre
oui.
La belle qui a commis quelque chose qu'il trouve
scandaleux. Surtout le plot twist, c'est savoir qui est le méchant, surtout.
Oui, voilà, final, donc faut pas...
Et puis moi j'ai parlé de It's Okay Not To Be Okay, donc...
Ouais, voilà.
Donc voilà. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc je te remercie pour toutes ces infos et je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur un autre pays d'Asie. Et petit bonus, si cet épisode sur la Corée du Sud a piqué votre curiosité, j'ai sorti la semaine dernière un épisode avec une étudiante de Sciences Po Paris qui vient tout juste de rentrer de Corée du Sud. C'est plus un retour sur ce qu'elle a pensé du pays et les chocs culturels qu'elle a pu avoir. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous pouvez le retrouver en podcast.
Merci à toi et à vous de nous suivre. À la prochaine.